C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
La saga de l'ex-juge québécois Jacques Delisle a pris fin aujourd'hui. Le plaidé coupable à une accusation réduite. Il a été condamné aujourd'hui à 8 ans et 311 jours de prison pour l'homicide involontaire de sa femme Nicole Rainville. C'était en 2009. Et il a déjà été détenu 8 ans et 310 jours. Donc, il lui reste une journée d'emprisonnement à purger. Catherine Lamontagne, qui est journaliste au Journal de Québec, a suivi ce dossier-là depuis le début. Elle est l'autrice du livre « Le dernier procès, l'affaire Jacques Delisle », paru chez Stanké. Elle est au bout du fil. Catherine, bonjour.
Bonjour.
D'abord, peut-être nous résumer comment cette affaire-là commence.
Au début, mais écoutez, toute cette affaire-là débute en 2009, là, donc ça fait déjà près de 15 ans. Nicole Rainville, qui est une femme de 71 ans, est retrouvée sans vie dans son condo de Sillery avec une balle dans la tête. C'est son mari, le juge à la retraite Jacques Delisle, qui fait la macabre découverte et qui va appeler à ce moment-là le 911. Et c'est comme ça que ce fait divers-là, parce que ça part toujours comme un fait divers, évidemment. C'est vraiment le point de départ là, de cette histoire-là qui va s'étirer durant, c'est ça, près de 15 ans. Là.
Et il y a eu un procès et il a été reconnu coupable de meurtre prémédité.
Oui, en 2012, devant jury, un procès de 6 semaines, Jacques Delisle qui va être déclaré coupable. Et à ce moment-là, la couronne, sa théorie, c'est que Jacques Delisle a mis fin au jour de son épouse pour aller rejoindre sa maîtresse, qui était son ancienne secrétaire de 20 ans, sa cadette. Du côté de la défense, on arguait que Nicole Rainville était dépressive, suicidaire et qu'elle avait mis elle-même fin à ses jours. Maintenant, au cœur de tout ça, il y avait une preuve balistique et scientifique complexe et qui a été étalée vraiment des deux côtés durant les différentes semaines de procès. Et le jury a finalement retenu la version de la couronne. Fait à noter, Jacques Delisle, à ce moment-là, n'a pas témoigné lors du procès. Et c'est lui, là, quand même, qui avait été le dernier à voir son épouse en vie.
Et cette stratégie-là de son avocat, Maître La Rochelle, là, elle a été critiquée.
Ben oui, dans le sens que Monsieur Delisle, à un certain moment, a été peut-être forcé là, de livrer sa version des faits. Rappelez-vous, là, après le verdict de culpabilité, Jacques Delisle a tenté de porter devant la Cour d'appel, puis la Cour suprême sa cause. Ça n'a pas fonctionné. En 2015, il a utilisé un recours qui est plutôt peu commun, là, donc qui est une demande de révision judiciaire. Il se disait encore là, victime d'une erreur judiciaire. Et à ce moment-là, en 2015, il a révélé sa version des faits. Et là, ce qu'il a dit, c'est que finalement, il avait une implication dans le décès de sa femme, en ce sens où c'est lui qui lui avait fourni une arme chargée pour qu'elle mette fin à ses jours, car c'était son souhait. Là. Donc, ce qu'il avait dit à l'époque, je me souviens, c'est « J'ai répondu à un cri du cœur de ma femme en lui fournissant cette arme-là. »
Mais en même temps, il y a la fameuse tache noire dans sa main qui donne à penser que cette version-là était un petit peu tirée par les cheveux, non?
Mais la fameuse tache noire, là, c'est sûr que je pourrais pas tout vous expliquer
oui,
là, parce que c'est tellement
c'est
complexe. Là, mais vous avez raison, la tache noire, elle était au cœur de la preuve d'expert dans cette affaire-là parce que quand Nicole Rainville est retrouvée sans vie, au creux de sa paume gauche subsiste ce tatouage de noir de fumée là. Et Mme Rainville, à ce moment-là, elle est paralysée de tout le côté droit de son corps. Donc forcément, si elle s'est enlevée la vie, c'est avec la main gauche. Mais pour les experts du ministère public, c'est impossible. Une arme normalement manipulée ne peut pas laisser un tel tatouage dans la paume. Donc, c'était clair pour les experts du ministère public qu'une tierce personne devait tenir l'arme. Maintenant, du côté de la défense, on y est allé avec différentes expertises en disant, attendez, non, si on tient l'arme à l'envers d'une manière peu orthodoxe, certes, on pourrait obtenir aussi ce tatouage de noir de fumée. C'est pas une théorie qui avait été retenue là, par les jurés en 2012.
OK, Catherine, vous avez suivi le dossier, vous avez écrit un livre. Il a donné des entrevues au fil des années, pas beaucoup. Est-ce que ces versions ont évolué?
Mais moi, Jacques Delisle, j'ai rencontré en 2012 et en 2013. Donc, à l'époque, il était incarcéré au pénitencier parce que il avait été condamné pour le meurtre prémédité de son épouse. Mais à ce moment-là, ses moyens d'appel n'étaient pas épuisés. Donc, c'est sûr que c'est un homme qui avait encore espoir. Mais comme le processus judiciaire était encore en cours, j'ai pas pu, moi, discuter face à face avec M. Delisle de ses théories ou de sa version des faits. En 2015, par la suite, dans son adresse, dans sa demande de révision ministérielle, Jacques Delisle a déposé un affidavit là, dans lequel il résume de long en large. C'est un document de plusieurs pages là, dans lequel il explique là, sa version des faits. Mais cette version-là, évidemment, n'a pas été testée lors d'un contre-interrogatoire, par exemple, devant les tribunaux. Il avait à l'époque aussi accordé une entrevue à Enquête de Radio-Canada dans laquelle il résumait là, essentiellement ce qui était dans cet affidavit.
Comment il était aujourd'hui? Parce qu'il s'est présenté au palais de justice. J'ai vu les images. Là, c'est un homme qui est rendu frêle. Qu'est-ce qui vous a frappé dans son apparition en cours?
Oui, c'est un homme qui est rendu frêle, qui se déplace d'un pas lent. On le sent affaibli, on le sent fragile. Il va souvent être escorté, là, autant quand il est rentré au palais de justice aujourd'hui, quand il est sorti, il est escorté par son gendre. Monsieur Delisle a quand même 88 ans. Là. Il a passé aussi près de 9 années de sa vie derrière les barreaux. Ça a laissé des traces. Il a perdu aussi son calme là, à différents moments au courant de l'audience ce matin, notamment là, quand c'était le temps de... Parce que, bon, M. Delisle a purgé quelques heures de détention. Là, dans l'entente, là, l'accusé devait passer une journée en détention. Finalement, ça a été quelques heures. Mais quand il a été mené vers la détention et que l'on lui a dit... ben on va vous mettre les menottes, M. Delisle. C'est sûr qu'il s'est offusqué. Là, ça faisait pas son bonheur. Mais M. Delisle, il a jamais été un grand fan des médias. Là. Sa famille souvent déploré le traitement médiatique. Ça faisait pas leur affaire. Il était pas content des titres. Il était pas content de la place que cette nouvelle-là prenait dans l'actualité. Donc, ça a pas été différent ce matin. Là, on n'a pas eu droit à une grande entrevue avec M. Delisle ou les membres de sa famille. Là, c'est des gens plutôt discrets qui n'ont pas vraiment envie de nous voir là, bien honnêtement.
Catherine, je le rappelle, vous avez suivi pour le Journal de Québec la cause de Jacques Delisle. Depuis le début, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le dernier procès, l'affaire Jacques Delisle ». Si vous aviez pu lui poser des questions, quelles questions vous lui poseriez?
Mais il y en aurait 1000. C'est un dossier qui dure depuis 15 ans. Fait que c'est sûr qu'à tout au long de cette saga-là, il y a des interrogations qui sortent, puis ne serait-ce que dans la stratégie, mais... Je me demande si M. Delisle, aujourd'hui, à 88 ans, pourrait bien répondre à ces questions-là. Avec tout le stress puis les années qui ont passé, je connais pas non plus son état de santé global, là, mais il y a beaucoup de problèmes de surdité. Je me demande à quel point je pourrais, par exemple, si j'avais l'opportunité, là, avoir un échange vraiment complet et profond et transparent et senti avec cet homme-là. Je pense que de un, ça lui tenterait pas. Foncièrement, là, je pense pas que ça lui tenterait.
OK, dernière question. Pourquoi la Couronne a accepté un deal, comme on dit, plutôt que de forcer un deuxième procès?
Ça, c'est quand même étonnant. Pas que la Couronne a accepté un deal, mais l'entente qui survient aujourd'hui, là, le fait que Jacques Delisle plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire, ça, les deux parties s'entendent là-dessus. Mais le chemin qui a mené les parties à en venir à ce compromis-là est complètement différent. Du côté de la Couronne, on maintient que si on avait tenu un second procès, on aurait été capable de démontrer que Jacques Delisle probablement là, a assassiné sa femme, que toutes les preuves étaient là, puis la Couronne demeure encore convaincue que Jacques Delisle a une implication grande dans le décès de sa conjointe. Tandis que du côté de la défense, on réfute en fait la position de la Couronne, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et du côté du clan Delisle, on maintient que la seule implication que Jacques Delisle a dans cette affaire-là, c'est qu'il a fourni une arme chargée à son épouse. Donc, c'est une aide au suicide, dans le fond. Mais le deal, là, c'est vraiment sur l'homicide involontaire. Ce que la Couronne explique, c'est que, bon, c'est un compromis. Même si on avait tout pour prouver la culpabilité à l'accusation de meurtre prémédité, à un moment donné, pour une saine administration de la justice, là, il fallait accepter cette entente-là. M. Delisle a 88 ans, on était rendu à la Cour suprême, on n'aurait pas trop... Ça aurait duré encore des années, là. Donc, est-ce que vraiment un second procès aurait pu se tenir là-dedans, considérant tous ces facteurs-là? La Couronne l'a dit tantôt, là, ça aurait été quand même utopique de penser que ça aurait été possible.
Merci beaucoup, Catherine. Bonne soirée.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
À la prochaine. Catherine Lamontagne, journaliste au Journal de Québec, et elle est aussi directrice adjointe du bureau d'enquête de Québécois. Elle a écrit un livre sur la saga de Jacques Delisle, Le dernier procès.
Patrick Lagacé, en accéléré.
On le sait, les comptoirs alimentaires, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicités. Les gens sont souvent pris à la gorge, le coût de la vie a augmenté Et quand on coupe, ben c'est souvent dans la nourriture. Lundi, la police a dû intervenir dans les locaux d'une banque alimentaire de Parc Extension à Montréal parce qu'un trop grand nombre de personnes se sont présentées sur place lors de la distribution des denrées. C'est Nancy Dion qui est coordonnatrice à l'organisme Cuisine et Vie Collective Saint-Roch dans Parc Extension. Elle est au bout du fil. Madame Dion, bonjour.
Bonjour, Patrick.
D'abord, peut-être nous expliquer ce que vous faites dans votre organisme.
Alors, nous, on est un organisme communautaire dans Parc Extension depuis plus de 30 ans. On est un milieu de vie, donc on permet aux gens une intégration sociale communautaire en leur offrant des services qui leur permettent de recevoir de la nourriture à faible coût. Donc, on parle de dons que Moisson Montréal nous fait de façon récurrente toutes les semaines. Ils peuvent venir chercher un panier de denrées sèches et de denrées fraîches, donc des légumes, à toutes les semaines. Mais pour ce faire, ils doivent être membres et affiliés à notre organisme. Nous avons présentement plus de 400 membres. Cependant, il y aurait une demande pour en avoir plus de 600 à 700, mais on doit les refuser parce qu'évidemment, on est limité au niveau des financements que l'on reçoit.
OK, 400 membres, mais est-ce que vous distribuez 400 paniers de denrées chaque lundi?
C'est de l'ordre de 200, de 180 à 200 chaque semaine. Oui, on le fait une fois par 15 jours. Puis c'est deux groupes très précis de personnes enregistrées.
OK, donc vous prenez les inscriptions, vous voyez c'est quoi les besoins de tout le monde, puis ceux qui se qualifient, ben un lundi aux deux semaines peuvent recevoir ça.
Exactement. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent venir à toutes les semaines. Parce que le coût de la vie ayant augmenté, ils veulent se faufiler dans la file d'attente. Et là, ça fait la cohue, en fait, parce que là, ils trouvent ça très difficile. La plupart de nos participants sont des nouveaux arrivants, des gens qui sont allophones, qui ne parlent ni français ni anglais, qui sont en attente soit de permis d'asile ou de statut de réfugié. On parle de 21 mois d'attente au niveau du permis de travail. Donc, oui, c'est un état de précarité financière est vraiment très important dans le quartier.
OK. Racontez-moi ce qui s'est passé lundi.
Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que nous avons la possibilité d'avoir la distribution faite dans un centre communautaire qui est le centre William Hingston. C'est qu'on met les gens habituellement en file d'attente à l'intérieur pour ne pas qu'ils aient froid à l'extérieur. Mais ce qui arrive, c'est que depuis quelques semaines, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas se mettre en ligne et ça bloque les entrées principales pour toutes les autres activités communautaires. Donc, on a décidé de les laisser dehors. Puis là, quand on ouvre les portes, on les laisse rentrer 10 par 10. Mais là, il y a 4 portes. Et ce qui est arrivé, c'est que tous les gens se sont dirigés spontanément directement dans les 4 portes, bloquant tous les accès. Mais là, on n'avait pas 200 personnes, on avait comme 300, 400 personnes d'un coup. Alors là, il a fallu qu'on fasse appel à la sécurité du bâtiment. Et là, quand j'ai vu que c'était incontrôlable, j'ai fait le 911. Et là, la police communautaire est arrivée. Et la police de Montréal est arrivée également. 3 voitures de police. Et là, on a réussi à retirer de la file les gens qui n'étaient pas membres, la moitié. Et là, par la suite, on a mis un ruban jaune pour les stopper, pour qu'ils puissent se mettre en ligne, pour attendre, pour éventuellement pouvoir passer tour à chacun leur tour.
Quand vous dites, Nancy Dion, que c'était devenu incontrôlable, racontez-moi ce qui était incontrôlable. Racontez la scène.
Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que les gens se bousculaient et que ce soit la maman avec la poussette, avec l'enfant, le monsieur qui était derrière, lui voulait passer en premier. Très souvent dans les pays à l'étranger comme ça, comme l'Inde, ce qui arrive, c'est que les gens ont très peu de ressources. Alors dès que quelque chose est offert gratuitement pour eux, c'est vraiment la loi de la jungle, le premier arrivé, premier servi. Ils comprennent pas qu'ici on a une certaine courtoisie qui est de donner des coupons avec des numéros et chacun attend son tour. Eux, ils ont tous voulu rentrer d'un coup, ayant peur de ne pas avoir de quoi se nourrir, tout simplement.
Si je comprends bien, généralement, là, les gens qui viennent, ce sont ceux qui sont inscrits, qui sont membres. Oui. Là, la différence depuis peu de temps, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas membres qui essayent de se faufiler.
Voilà. De tous les quartiers de l'île de Montréal. Donc, on voit des gens de Longueuil, de Laval, de partout. Puis là, nous, on doit les refuser. On doit dire, on s'excuse, mais il va falloir que vous veniez vous enregistrer. Puis là, ici, l'organisme, les bureaux administratifs étant à une autre adresse, on reçoit des gens à longueur de journée. La porte n'arrête pas de sonner du matin au soir où les gens nous supplient en nous disant, bien, est-ce que vous pourriez nous aider? On a faim, on a une famille, on n'a pas d'argent. Fait que nous, on doit faire des choix très judicieux. La même chose se produit chez Jeunesse au Soleil. La même chose se produit à Afrique au Féminin, d'autres organismes qui font des banques alimentaires dans le secteur. C'est la même chose partout. La demande est 3 fois plus grande que qu'est-ce qu'on peut répondre.
OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps pour expliquer ce genre de dérapage?
Je dirais que c'est l'inflation des coûts de la nourriture, même dans les supermarchés en général, les gens ne peuvent plus aller avec des moyens si précaires, aller s'acheter dans les magasins la nourriture, donc ils dépendent de plus en plus des banques alimentaires. Donc, c'est vraiment la hausse du coût de la nourriture qui fait que maintenant, les gens se retournent uniquement. Puis on parle même de la classe travaillante, la classe normale, régulière. Mmh. Il y a des gens qui même avec des enfants, viennent nous voir puis qui nous disent, écoutez, on aurait besoin d'un petit coup de main en fin de mois, tout ça. Donc, nous, on ne privilégie pas nécessairement les nouveaux arrivants. C'est vraiment pour toutes les classes de la communauté, là. Donc, on doit sélectionner. Puis eux, ben ils s'imaginent que en arrivant ici au Canada, ils ont des ressources puis ils ont de la gratuité, mais malheureusement, il faut un certain ordre, hein, il faut une structure pour pouvoir éventuellement les comptabiliser, savoir combien de personnes ont besoin dans quel secteur. Donc, nous, on doit faire tout le travail administratif derrière, puis ça, c'est, il faut des ressources humaines, puis on est en manque de ressources humaines ici. Les employés travaillent beaucoup trop, ils sont épuisés. On est 7 employés à temps plein ici dans l'organisme, puis il en faudrait 10, 15. On a 22 groupes de femmes qui viennent cuisiner avec nous tous les jours. Ils prennent les denrées qu'ils reçoivent, ils peuvent les cuisiner gratuitement ici sur place, et nous, on leur donne tous les outils, on leur donne la possibilité d'avoir un fonds de cuisine, de l'huile, des épices, comme ça leur évite de les acheter, puis là, ils repartent avec des portions pour leur famille. Donc, notre organisme se concentre vraiment pour nourrir la population. Puis là, on aurait besoin de plus d'animatrices, on aurait besoin de plus de denrées, éventuellement, on aurait besoin de gens qui soient à l'écoute et qui disent, écoutez, on va essayer, parce qu'on a un très beau cercle de bénévoles qui travaillent avec nous, on parle d'une trentaine de bénévoles annuellement. Mais ces gens-là également, ils sont fatigués parce qu'ils doivent rester plus longtemps à la banque alimentaire. Ils doivent venir nous aider à transporter plus de boîtes au deuxième étage. On est situé au deuxième étage. Donc, c'est beaucoup, c'est tout un engrenage de participation sociale là, qui est engagé.
Tantôt, Mme Dion, vous avez évoqué le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver au pays qui attendent un permis de travail. Il y a beaucoup de bureaucratie, on le sait. Parlez-nous un peu de cette réalité-là qui fait que les gens sont ici, ils ne peuvent pas travailler.
Non, ils n'ont aucun recours possible. Et même lorsqu'ils font la demande de l'aide précaire de d'aide sociale, il y a un minimum de papiers, de documents qu'ils doivent produire. Et parfois, ils ne peuvent même pas s'exprimer, ils ne peuvent même pas comprendre ce que les exigences sont parce qu'ils ne parlent pas la langue. Donc, ils doivent attendre d'avoir des traducteurs qui demandent des prix insensés parce qu'ils abusent la situation. Donc, nous, on essaye le plus possible de les référer à des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Mais c'est ça qui fait que ça ralentit, tout le système est ralenti par un manque de un de francisation, de deux un manque de personnel un peu partout. Puis c'est sûr que il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Je vous dirais là depuis les deux dernières années, ça l'a beaucoup augmenté. Donc il faudrait que éventuellement toutes les ressortissants des ressources puissent augmenter aussi au niveau de leur personnel.
Le gouvernement du Québec dit, écoutez, on est rendu au bout de notre capacité d'accueil. Puis la capacité d'accueil, c'est plein de choses là. C'est disons le nombre de places. Dans les écoles, c'est justement le nombre d'organismes comme vous qui pouvez donner ou pas de la nourriture, le nombre de logements abordables. Trouvez-vous que vous êtes un exemple de la capacité d'accueil qui est rendue au bout de sa limite?
Oui, tout à fait. Nous, on est en première ligne, puis je vous l'affirme, là, on est arrivé vraiment depuis quelques mois à la limite de notre capacité d'acceptance, parce qu'on ne peut plus accepter les gens. C'est regrettable, parce que lorsqu'on doit retourner des gens affamés, c'est très triste, la situation est très triste, c'est inhumaine. Puis en 2024 au Québec, c'est malheureux, mais oui, ça arrive, et ça arrive toutes les semaines. C'est comme ça. Alors, il faut voir à positiver, il faut voir à mieux s'organiser, il faut voir à ce que toutes les parties engagées puissent communiquer de façon saine, sereine, pour qu'on puisse avoir une belle entente entre nous, pour que ça puisse, que les bonnes parties puissent être aidées, parce que nous, on a beau vouloir se démener, mais on a une certaine limite au niveau de l'énergie personnelle, au niveau de l'énergie financière, donc voilà.
OK. Dernière question. Quand vous dites que vous refusez des gens, oui. Expliquez aux gens qui nous écoutent comment ça se passe, la conversation, quand vous dites à des personnes qui cognent à votre porte, là, chez vous, chez Cuisine et Vie Collective Saint-Roch, on peut pas vous aider.
Alors, ça sonne à la porte, on va répondre, on va leur demander en anglais la plupart du temps, puisqu'ils ne parlent pas français, on leur demande en anglais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, puis là, ils nous répondent « I need food ». Alors, j'ai besoin de nourriture. Alors, j'ai dit, malheureusement, est-ce que vous n'êtes pas membre? On aimerait s'inscrire. Alors, malheureusement, nous, on ne fait plus de carte de membre pour les deux prochains mois. Alors, les gens nous disent, j'ai besoin maintenant. Alors, on prend leur nom et on les met sur une liste d'attente. Et dès qu'une personne qui n'est pas venue trois fois chercher sa nourriture les lundis suivants, on remplace cette personne-là avec une personne sur la liste d'attente, mais c'est très long. Mais vous imaginez avoir faim pendant trois semaines, c'est impossible à gérer, là. Fait que les gens reviennent tous les jours puis nous disent, est-ce que je pourrais avoir un peu de riz? Est-ce que je pourrais avoir un petit? Puis nous, on essaie de les aider. On fait des petits dépannages d'urgence, mais on ne peut pas mobiliser le personnel à faire que ça durant toute la journée.
OK, il y a des gens qui m'écrivent là dans la messagerie pour me dire bon, oui. Moi j'ai du temps, je pourrais aider, je pourrais faire des dons, comment on peut vous aider?
Alors, on a sur notre page Facebook, on a le lien qui donne au PayPal pour les dons. C'est très apprécié. On apprécie chaque petit don, est très important. Pour ce qui est du bénévolat, on a toujours besoin des gens. On a une fiche ici d'inscription pour tous les bénévoles qui veulent s'engager auprès de notre organisme. Alors, ils ont qu'à se présenter à notre adresse au 7408 Bloomfield et on va se faire un plaisir de les accueillir et ils pourront aider de plusieurs façons possibles, que ce soit du transport, de nourriture, parce que nous, on a un volet qui est tout ce qui est personnes âgées dans le quartier également. Donc, on va livrer des denrées alimentaires à domicile aux personnes âgées dans deux résidences. On a aussi la popote roulante. On fait des repas chauds qu'on va porter à d'autres personnes âgées qui sont dans les capacités de venir se déplacer. Donc, oui, on aurait besoin de bénévoles pour cuisiner. On aurait besoin de bénévoles pour livrer à tout niveau. Donc, on accepterait que les gens viennent nous voir et à ce moment-là, on pourrait augmenter les performances de livraison, les performances de cuisine et ça nous aiderait beaucoup. Oui.
Le message est lancé. Merci, Dion. Merci, Mme Dion, d'avoir été avec nous.
Ben, je vous en prie, M. Lagacé. Bonne journée.
Bonne journée. C'était Nancy Dion. Et pour ceux qui veulent aider, là, je vais répéter le nom de l'organisme. Cuisine et vie collective. Saint-Roch, c'est dans Parc Extension. Entrez ces mots-là dans Facebook si vous voulez aider. Cuisine et vie collective. Saint-Roch.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Les audiences publiques portant sur le décès de Maureen Brault, la policière de la Sûreté du Québec, se poursuivent jusqu'à la semaine prochaine au Palais de justice de Trois-Rivières. Et hier, ce sont les policiers de la SQ qui ont participé à l'intervention du 27 mars 2023 à Louisville qui ont témoigné. Je rappelle que la policière Brault a été tuée par Isaac Brouillard Lessard. Lui-même a été tué par la police après avoir poignardé Mme Brault. Et l'affaire illustre bien les ratés du suivi des patients qui ne sont pas judiciarisés après des crimes violents au nom du principe de non-responsabilité criminelle pour cause de problèmes de santé mentale. On va parler de tout ça avec Dr Mathieu Dufour. Il est psychiatre légiste et chef du département de psychiatrie à l'Institut national Philippe Pinel. Dr Dufour, bonjour.
Oui, bonjour, M. Lagacé.
D'abord, question générale, là, qu'est-ce qui retient votre attention dans tout ce qui ressort des travaux de l'enquête publique de la coroner Kamel?
Bien, je pense qu'il y a plusieurs choses qui retiennent notre attention parce que je pense qu'on peut se le dire, on a de l'amélioration à faire dans notre système de psychiatrie légale. Il y a eu des manquements, là, pas juste avec le code de M. Brouillard, là, mais avec d'autres qu'on a vus dans les médias. Puis je pense qu'on est vraiment dû pour une réforme de notre système de psychiatrie légale. Puis ça tombe bien parce que le ministère a justement demandé à Pinel à ce qu'on puisse coordonner cette réforme-là. Donc, on a beaucoup d'idées d'amélioration du système.
Comme quoi?
Fait que, par exemple, là, présentement, on a des hôpitaux désignés. On en a plus que 45 à travers le Québec. C'est probablement un peu trop. Donc, on concentre pas assez l'expertise. On n'a peut-être pas assez de ressources là pour pouvoir suivre nos patients sur la CETM. Donc, on aimerait ça en avoir un peu moins, un peu comme le système en Ontario, où ils sont un peu plus concentrés et il y a plus de ressources là pour le suivi de ces patients-là.
Vous avez mentionné la CETM. C'est la Commission d'examen des troubles mentaux. Quand quelqu'un est étiqueté non criminellement responsable d'un crime parce qu'il était aux prises avec des problèmes de santé mentale, c'est la CETM qui va déterminer les conditions de sa remise en liberté ou de sa détention en hôpital. Présentement, est-ce que vous estimez que la CETM fait du bon travail?
Ben, moi, je vous dirais, là, ça fait 5 ans que je suis au Québec. Avant, je pratiquais en Ontario. Et quand je vois le travail de la CETM, ils font leur travail comme qu'ils peuvent avec le personnel qu'ils ont, mais surtout avec la jurisprudence, avec les critères légaux qu'ils ont. Puis, il faut rappeler qu'au Québec, là, on a beaucoup plus de patients qui sont non criminellement responsables. Donc, beaucoup plus de ce genre de verdict-là que dans les autres provinces, là, par exemple. Ils en ont 6 fois plus au Québec qu'en Ontario. Donc, on a beaucoup plus de dossiers à gérer. Puis ça, ça peut causer problème parce qu'on a beaucoup plus d'audiences. Il nous faut encore plus de psychiatres. Il nous manque de psychiatres sur cette commission d'examen-là. Donc, dans les circonstances, je pense que la CETM fait le travail qu'ils peuvent. Là.
OK. 6 fois plus qu'en Ontario. Pourquoi?
C'est une bonne question. On a fait de la recherche là, autant à Pinel avec Anne Crocker, notre directrice de recherche à l'enseignement, puis il y a d'autres recherches qui sont faites là-dessus. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est comme si le verdict de nos responsabilités criminelles était utilisé au Québec pour des crimes qui sont moins sévères. Comme si le système de psychiatrie plus général n'était pas assez efficace pour pouvoir traiter ces patients-là. Donc, on va judiciariser des crimes qui sont moins sévères pour pouvoir enfin les rentrer dans le système de psychiatrie légale puis qu'il y ait accès à des traitements. Donc, c'est peut-être beaucoup plus un reflet là, des lois en santé mentale, surtout au civil, là, notre fameuse P38, là, la loi qui permet l'hospitalisation involontaire, mais aussi les traitements contre le gré. C'est peut-être un peu trop restrictif au Québec par rapport aux autres provinces.
Il y a aussi la question de la confidentialité des informations médicales et aussi de ce qui a été prescrit par la commission d'examen des troubles mentaux. Je lisais le rapport aujourd'hui là de ce qui s'est passé à la commission de Jeanne Kamel et je vais citer l'article de la presse. Les policiers ignoraient au moment d'intervenir auprès de M. Brouillard-Lessard qu'ils étaient donc en droit de l'arrêter en cas de non-respect de modalité puisqu'il était visé par une ordonnance de la commission d'examen des troubles mentaux. Ce que je comprends, c'est que les flics, quand ils se rendent à une adresse pour intervenir auprès d'un individu, ils n'ont pas moyen de savoir si cette personne-là est sous le coup de condition de la commission d'examen. C'est-tu vrai?
Ben oui, c'est ce que j'entends aussi de nos collègues policiers. Puis ça, c'est un problème là, tu sais, pour gérer le risque là, des patients qui sont en communauté comme ça, mais surtout aussi pour les familles. On entend des familles des fois là qui lèvent le drapeau, là, qui lèvent le flag pour dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pas bien. Puis des fois, nous comme équipe traitante, on essaie de parler aux familles, mais avec toutes les lois de confidentialité au Québec qui sont encore une fois plus restrictives que dans d'autres provinces comme l'Ontario, ça fait que c'est difficile de se parler entre l'hôpital, les policiers, la police, pour être sûr que le patient reçoive le traitement nécessaire pour pas qu'il devienne violent. Ça, c'est une autre piste de solution, je pense qu'avec la coroner, qu'on va regarder, est-ce qu'il faut modifier les lois de confidentialité pour, même si la plupart des patients qui souffrent de maladies psychiatriques, en fait, ils ne sont pas violents, sont beaucoup plus victimes que perpétrateurs de violence. Il y a un petit groupe qui est quand même plus violent à cause de leur épisode de psychose. Mais peut-être que pour ces patients-là, les lois de confidentialité pourraient être un peu plus différentes là, pour justement permettre leur traitement.
Docteur Dufault, vous avez œuvré en Ontario comme psychiatre. Est-ce qu'en Ontario, on a les mêmes règles de confidentialité?
Elles sont différentes. Par exemple, des patients qui sont sur la CETM, donc qui sont non criminellement responsables, les lois de confidentialité sont pas mal plus lousses, si on veut dire. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler avec les gens de la police, parler avec la famille. Mais surtout en Ontario, en plus de la confidentialité, ils ont un tribunal spécialisé en santé mentale où que justement, ils traitent autant là, des hospitalisations contre le gré, autant des traitements contre le gré. Donc, le système est beaucoup plus efficace. Il y a un meilleur mécanisme de protection des droits des patients. Donc, je vous dirais que le système en Ontario pour ce tribunal spécialisé en santé mentale-là est beaucoup plus efficace.
OK. Diriez-vous que les lois qui protègent la confidentialité absolue des dossiers médicaux au Québec, même dans le cas de patients qui ont été dans les filets de la commission d'examen des troubles mentaux, diriez-vous que ces lois-là sur la confidentialité mettent plus de vie à risque au Québec qu'en Ontario?
Ben, je vous dirais que ça suit tout ce qui est la jurisprudence. Là. Il y a un cas en Cour suprême là, qui s'est rendu, qui décrit un peu là, c'est quoi les circonstances qui fait qu'on peut briser la confidentialité. Ceci étant dit, quand on voit comment que les tribunaux interprètent ce genre de loi-là, il y a un plus grand emphase sur le droit des patients à préserver leur autonomie, leur confidentialité au Québec, là, dans les cours du Québec que de l'Ontario. Donc, c'est plus restrictif. Donc, c'est sûr que si l'information circule moins, on peut faire une moins bonne job pour pouvoir les traiter et éventuellement prévenir le risque de violence.
Mais il y a quand même quelque chose au Québec qui est différent sur la confidentialité de ce qu'on retrouve des voisins ontariens.
Oui. Donc, clairement, autant pour les patients qui sont en psychiatrie légale, là, qui sont non criminellement responsables, que les patients qui vont dans des hôpitaux généraux ou en psychiatrie générale, les lois de confidentialité dans d'autres provinces sont un peu plus ouvertes pour pouvoir permettre les discussions avec les proches, là, avec les services policiers, la couronne et tout ça.
OK. Fait que si Maureen Brault avait été une policière de l'OPP en Ontario, ben peut-être qu'elle aurait pu savoir, comme ses collègues, à qui elle avait affaire quand elle s'est présentée chez Lessard-Brouillard.
Mmh. ça se peut. Je sais qu'ils ont des systèmes en Ontario policiers différents en termes là, d'accès, si le patient est déjà sur la CETM ou pas. Ceci étant dit, je pense que c'est pas la seule différence qu'il y a par rapport à l'Ontario. Là. Donc, c'est tout le suivi aussi de ces patients-là en clinique externe. Ou que, par exemple, au Québec, on a, comme il y a, comme je disais auparavant, beaucoup plus d'équipes qui sont peut-être un peu moins spécialisées, puis qui ont peut-être pas les ressources, puis justement la formation pour pouvoir bien évaluer le risque de violence. Donc je dirais que c'est pas juste au niveau des policiers, mais c'est au niveau du système là qu'on peut améliorer le tout.
OK, dernière question. La coroner, Mme Kamel, se penche aussi sur le cas des trois meurtres commis par Abdullah Chaïk, pardon. Et c'est un autre cas d'un patient qui avait déjà été libéré, entre guillemets, parce qu'il avait été reconnu non criminellement responsable dans le passé d'actes violents. Elle propose, dans ce cas-là, là, c'est une de ses idées, un tribunal spécialisé en santé mentale, vous l'avez évoqué tantôt. Ça, il y en a un en Ontario. Est-ce que ça marche?
Je vous dirais que c'est pas parfait en Ontario, mais de mon expérience, puis les recherches montrent que ça marche mieux que notre système actuel au Québec. Juste vous donner un exemple, monsieur Lagacé, comme psychiatre, là, je vais avoir mon même patient dans la même circonstance et dans un épisode de psychose aiguë. Faut que je me rende à la cour provinciale pour sa garde en établissement. Faut que je me rende ensuite à la cour supérieure pour être sûr qu'il reçoive son traitement, malheureusement, contre le gré pour certains patients. Puis ensuite, il faut que j'aille devant la commission d'examen des troubles mentaux s'il est non criminellement responsable. Donc, on a trois niveaux de cours. C'est complexe pour nous, même moi qui est psychiatre légiste, qui a ma surspécialisation là-dedans. Imaginez ce que c'est pour les patients, la famille, les proches. Notre système est tellement complexe au Québec, je pense qu'il faut le simplifier. De là, l'idée d'un tribunal spécialisé en santé mentale. Puis je dois reconnaître quand même le ministre Carman a demandé à un professeur de l'Université de Montréal, le professeur Noro à l'Institut québécois de réforme de droit et justice, de proposer une certaine réforme dans les lois civiles en santé mentale. Donc, on espère vraiment qu'on va pouvoir enfin avoir ce tribunal spécialisé en santé mentale.
Merci beaucoup, Dr. Dufour. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci à vous.
À la prochaine. C'est le Dr. Mathieu Dufour, psychiatre légiste et aussi chef du département de psychiatrie à Pinel. Son expertise est intéressante. D'abord, il connaît le sujet, mais il a œuvré aussi en Ontario, donc il peut comparer les régimes québécois et ontariens.
Patrick Lagacé en accéléré.
Katia Gagnon est là pour sa chronique hebdomadaire. Salut, Kat.
Salut, Patrick.
OK. Il y a 4 ans, on tombait dans ce cauchemar qu'allait devenir la pandémie, confinement, etc. Et quand je dis cauchemar, ce sont aussi toutes ces personnes âgées qui ont perdu la vie par infection dans nos CHSLD, qu'ils soient publics ou qu'ils soient aussi privés. 5060 personnes âgées ont perdu la vie. Est-ce qu'on est mieux préparé 4 ans plus tard à faire face à une nouvelle pandémie?
Ben, c'est une bonne question, Patrick, qu'on devrait, à mon avis, se poser régulièrement. Malheureusement, c'est comme si ces décès-là de 5000 personnes âgées qui sont décédées, donc rappelons-le, là, hein, dans la plus grande solitude, souvent, dans nos établissements, dans des conditions inhumaines. Il y a certains qui n'avaient pas été abreuvés, à qui on n'avait pas donné à manger, qui étaient dans des couches souillées. Je sais que c'est pas facile à entendre tout ça, mais je pense qu'il faut le dire. Puis moi, honnêtement, Patrick, d'emblée, je te dirais que je suis un peu catastrophée à chaque année, à peu près à ce moment-ci, de voir à quel point il n'y a pas de commémoration de ça, de ce drame-là.
Mais on a commémoré. Il y avait une journée de commémoration cette semaine. Écoute, c'est assez passé sous silence, là.
Petit.
Dans les...
Bon,
ouais, je comprends.
Disons qu'on souligne pas beaucoup le sort de ces personnes âgées-là qui sont décédées dans nos CHSLD alors qu'on commémore à juste titre toutes sortes de tragédies, Polytechnique, l'Île Verte, Lac Mégantic. Mais là, on a quand même une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne du Québec. Là, c'est quand même quelque chose. Donc, en 2022, moi, Gabriel Duchesne et Ariane Lecourcière, on a publié un livre qui relatait ce drame-là étape par étape en partant de l'état des CHSLD avant la pandémie. Donc, bon, le commentaire qu'on a le plus eu devant ce livre-là, là, dans les salons du livre, quand on rencontrait des lecteurs, c'était... Oh, vous avez tellement bien fait d'écrire ça. Bravo. Mais je suis pas capable de lire ça. C'est trop dur. Donc, moi, ça me faisait quand même de la peine d'entendre ça parce que je me dis, ben, t'sais, oui, c'est dur, mais c'est la réalité, puis il faut pas l'oublier. Et là, bon, 4 ans après ce grand traumatisme-là, la question que tu posais dès le départ de cette chronique surgit. Sommes-nous mieux préparés pour une autre pandémie? Donc, le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, il dit oui, on est plus prêt. On a acquis des réflexes, on a des facilités de production d'équipement. Mais la vraie question, c'est est-ce que les CHS, à mon avis, c'est est-ce que les CHSLD sont plus prêts? Parce que c'est là que s'est déroulé l'épicentre de cette crise-là. On pensait que c'était dans les hôpitaux, on l'attendait dans les hôpitaux, la COVID-19, elle a frappé dans les CHSLD.
Penses-tu que, tu sais, au début de la pandémie, là, je me souviens, là, tu sais, on était tous dans le culte de la gouttelette. Tu te souviens de ça, là? Gardez votre 2 mètres, etc. Ce qu'on a compris plus tard, puis c'est pas juste au Québec, là, le problème, c'est pas tant la gouttelette que l'aérosol, qui est plus petit, qui voyage beaucoup plus facilement, qui peut se promener d'une chambre à l'autre au gré des systèmes de ventilation. Est-ce qu'on a, sachant ça, penses-tu qu'on est mieux équipé?
Ben, je pense que oui, tu sais, en partie, dans le sens que je pense que la culture de prévention des infections en général s'est beaucoup améliorée dans les CHSLD. Elle était très déficiente avant la pandémie et cette pandémie-là a remis tout le monde à jour. Voici comment il faut fonctionner avec une maladie dont on connaît pas précisément là, tu sais, les tenants et aboutissants dès le départ. Donc, c'est sûr que ça s'est amélioré. C'est une des choses qui se sont améliorées. L'autre chose, c'est que, bon, il y a eu des opérations recrutement dans les CHSLD, hein, la première pendant la pandémie. Nous, on se rappelle des... M. Legault voulait 10 000 préposés aux bénéficiaires. Finalement, au global, il en reste quand même 8 000, ce qui n'est pas rien. On en a recruté plusieurs milliers. On a fait une deuxième opération l'année dernière. Donc, effectivement, les réflexes d'hygiène sont mieux implantés. Il y a des gens qui sont dédié à ça, à former les gens dans les établissements. On a conventionné, on est en train, en tout cas, de conventionner les CHSLD privés qui ont été le maillon très faible. Donc, quand M. Boileau dit « Oui, moi, je pense qu'on est plus près », il a en partie raison. Mais, bon, permets-moi d'ajouter quelques bémols. Tu sais, bon, cette semaine, Dr Cécile Tremblay, microbiologiste, Dr Sophie Zang, qui travaille beaucoup dans les CHSLD, soulignait, puis je pense que ça, c'est le nœud du problème, que le taux de postes vacants en CHSLD demeure très, très élevé, dont celui des médecins. Pas plus tard que 6 mois, là, il y avait 1 000 résidents de CHSLD qui n'avaient pas de médecin de famille. Donc là, on a fait une cellule de crise, on a fait un appel aux retraités. Mais là, en attendant, là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des aînés qui étaient envoyés à l'urgence pour des choses banales comme, je ne sais pas moi, une infection urinaire. C'est fait que là, tu prends une personne de 80, 85, 90 ans, tu l'envoies sur un corridor, sur une civière dans un corridor à l'urgence. Pourquoi? Parce que elle n'a pas de médecin qui va la traiter en CHSLD. Évidemment, dans le cas d'une pandémie, le rôle du médecin est quand même un petit peu central. Bon, au global, là, l'Institut de la statistique disait en juin dernier qu'il y a 44 000 postes vacants dans le secteur de la santé. Évidemment, ça, c'est pas juste en CHSLD. On ne sait pas précisément combien il y en a de vacants en CHSLD, mais il y en a un certain nombre de milliers là qui ne sont pas occupés par des gens. Et en plus de ça, ben comme le gouvernement a ouvert des maisons des aînés, hein, ces maisons des aînés qui, eux aussi, vont avoir besoin de personnel, hein, et donc ces maisons des aînés-là viennent, parce que les conditions de travail sont meilleures en maison des aînés, bien sûr, donc ils viennent siphonner un petit peu le personnel des vieux CHSLD qui sont plus vétus, moins le fun où travailler, tout ça. Donc, tu sais, ça, t'sais, la pénurie de personnel de CHSLD est toujours là, est pas réglée. Puis je rappelle qu'on a fait venir l'armée pour venir au secours des vieux pendant la pandémie. Donc, j'ajoute à cela, Patrick, puis je termine avec ça. Les établissements sont vétustes. Hein, les CHSLD, il y en a 171 sur 463 qui étaient en très mauvais état, dit le ministère, code D ou E. C'est énorme, là. T'sais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire des chambres à plusieurs, des toilettes partagées, des portes trop étroites pour laisser passer des civières, pas de clim, évidemment. On s'imagine qu'en temps de pandémie, tout ça n'est pas un endroit idéal pour héberger des gens âgés.
Je t'écoute, Katia, puis j'ai pas l'impression que s'il y avait un autre coronavirus qui frappait demain, qu'il y avait une autre pandémie, pas sûr que nos vieux seraient plus protégés dans les CHSLD.
Permets-moi d'en douter. T'sais, au début du livre qu'on a écrit avec les deux collègues, on faisait une liste des conditions perdantes avant la pandémie, ce qu'on a appelé les conditions perdantes. Mais il y en a un certain nombre de ces conditions perdantes, en fait la majorité, qui sont toujours là. Puis, je rappelle que ça va pas aller en s'améliorant, là. Parce que plus on avance dans le temps, plus la proportion de personnes âgées va augmenter. Et donc, plus la pression sur ces établissements-là va être forte.
Merci, Katia. On va se retrouver la semaine prochaine.
Certainement.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.